Radio Scarpe Sensée. Élection municipale Douai 2020. Frédéric Chéreault, tête de liste, Douai au cœur. Interview.
Monsieur Chéreault, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, le candidat Frédéric Chéreault pour un nouveau mandat ici dans cette ville de Douai. Quand on est maire sortant, qu'est-ce qu'on fait? On propose quelque chose dans la continuité? On défend un bilan ou on se dit 6 ans, c'était trop court?
Un peu tout ça à la fois. Oui, 6 ans, c'est trop court pour beaucoup de choses. Il y a beaucoup de projets, je pense au cœur de ville par exemple, où nous avons mis en place une machine, toutes les réponses sont en place, tous les partenaires sont autour de nous, mais ça n'est pas en 6 ans qu'on peut finir le travail. Donc oui, pour beaucoup de sujets importants, lourds, structurants, il faut plus de 6 ans. Après ça, vous parliez du bilan. Très clairement, on doit défendre son bilan, surtout quand nous avons le sentiment, comme c'est notre cas, qu'il est bon, que nous avons fait beaucoup de choses et qu'il est nécessaire d'expliquer, de présenter, de rappeler ce qui a été fait depuis 6 ans. Puis dans certains cas, ce qui a été fait en début de mandat peut être un peu oublié par certains. Donc redire, regardez, voilà tout ce que nous avons réalisé année après année. Et au fond d'ailleurs, si ce n'est pas l'équipe sortante qui présente son mandat, qui va le faire à sa place? Maintenant, on ne fait pas campagne sur un bilan. Ce n'est pas uniquement sur le passé qu'on convainc les habitants. Et nous avons fait avec l'équipe qui m'entoure un vrai travail depuis plus d'un an pour imaginer l'avenir. Évidemment, largement dans la continuité de ce que nous avons déjà construit sur les questions d'écologie, sur les questions de centre-ville, sur les questions de scolarité, sur les questions de solidarité, etc. Mais en ayant aussi à cœur de proposer de nouvelles idées, d'ouvrir de nouveaux chemins. Ou de se dire peut-être il y a des choses qu'on a pu esquisser dans le premier mandat, ressentir, percevoir, et on va aller beaucoup plus fortement dans ces voies-là, dans un second mandat.
On va évoquer quelques grands axes de votre campagne. D'abord, présenter l'équipe. Vous avez annoncé une équipe qui fait l'union entre le Parti Socialiste, le Parti Communiste et Europe Écologie Les Verts. Cette union affichée, au premier tour, elle était nécessaire?
Je pense de toute façon qu'un maire doit être fondamentalement un rassembleur. Un maire doit être capable de parler à tout le monde au-delà de son strict camp. Et donc il faut l'afficher dès sa liste. Si dans une liste, dans une équipe municipale, on n'est pas capable de rassembler des sensibilités diverses, des gens venus d'horizons un petit peu différents, avec des histoires et des projets un peu différents, alors comment est-ce qu'on va être capable ensuite de faire vivre tout un conseil municipal? Comment est-ce qu'on va être capable ensuite de parler à toute la ville? Donc cette diversité, moi je la souhaitais, je l'assume et je l'affiche. Au-delà de ça, j'ai vraiment pris soin de ne pas choisir que des étiquettes. Ça, c'est peut-être ce que j'ai le plus appris ou confirmé pendant le premier mandat. Ce que les électeurs élisent, ce n'est pas un projet, c'est encore moins un bilan, c'est une équipe. Il est très très important d'avoir des femmes et des hommes qui jouent collectif, qui se font confiance, qui travaillent ensemble, qui sont capables jour après jour, pendant 6 ans, d'aller sur le terrain, d'être à l'écoute des habitants, de parler, d'expliquer, même quand c'est pas facile, même quand on n'est pas compris tout de suite, même quand on se fait engueuler. Cette équipe-là, soudée, loyale, franche, en cohérence, ça a été vraiment mon premier souci, et je crois aujourd'hui que j'ai cette équipe. Au-delà des étiquettes, oui, certains sont membres du Parti Socialiste, d'autres sont membres du Parti Communiste, d'autres sont membres d'Europe Écologie Les Verts, d'autres n'ont aucune étiquette et ne souhaitent pas en avoir, et c'est tant mieux. Mais ce sont d'abord des femmes et des hommes compétents dans leur domaine ou légitimes sur leur quartier et qui ont envie d'entrer sincèrement dans un collectif. Pas des divas, pas des gens qui sont là pour régler un compte, pas des personnes qui veulent vivre une aventure personnelle, pas des feux de paille qui vont être tout feu tout flamme 3 mois et puis disparaître ensuite des écrans radars, des soutiers, des marathoniens, des équipiers qui vont tenir 6 ans dans un collectif. C'est fondamental pour moi.
Au bout de 6 ans, Frémarais, c'est un peu plus Douai que ça ne l'était avant.
Frémarais, ça a toujours été Douai. On est fiers à Douai d'avoir ce quartier avec son histoire à la fois rurale et minière, avec sa particularité. C'est un quartier qui appartient à Douai depuis le XIIIe siècle. C'était un cadeau de Marguerite de Flandre à l'époque. Et en même temps, Frémarais, a toujours son identité propre. Forcément, Frémarais est un peu plus loin du Beffroi que d'autres quartiers, coupé aujourd'hui du reste de la ville par la rocade minière. Mais ce particularisme n'empêche pas les relations. Et c'est vrai que nous avons eu à cœur pendant ce mandat de faire en sorte que la liaison entre Frey-Marais et Douai soit plus facile. Nous sommes en train de développer d'ailleurs des cheminements piétons-cyclistes qui permettent par le bord à canal de relier plus facilement Douai. Et puis, il s'agit aussi de faire en sorte que, même si Frey-Marais reste douaisienne et mieux reliée au centre, il faut que Frey-Marais puisse vivre dans une certaine autonomie étant donné la distance. Et donc nous avons mené un travail avec les habitants pour comprendre quels sont les enjeux majeurs qu'attendent les Frey-Maraisiennes et les Frey-Maraisiens et déployer un programme sur plusieurs années ensuite pour mettre en œuvre ces priorités. Alors les habitants à Frey-Marais nous ont parlé commerce, nous ont parlé salles d'activité de quartier multi-associatives qu'on va dessiner en 2020 puis mettre en œuvre en 2021. Les habitants de Frey-Marais nous ont parlé mobilité. Les bus notamment, mais aussi les mobilités à l'intérieur du quartier, par exemple pour aller au collège. Les habitants de Frey-Marais nous ont parlé des pôles de centralité que sont la place de Meaux ou le square de la Templerie. Tout ça, c'est des éléments d'une sorte de projet de mandat pour Frey-Marais. Nous allons travailler sur Frey-Marais à la fois en considérant ce quartier comme ce qu'il est, un quartier de Douai, et aussi en le considérant comme une sorte de village qui a droit à un regard spécifique compte tenu de sa spécificité, justement, de sa particularité dans Douai. Quand on regarde d'ailleurs au niveau de la population, Frey-Marais, c'est 3000 habitants. C'est l'équivalent d'Arleux, de Rache, de Courchelette. Donc on peut à bon droit aborder Frey-Marais, pas seulement comme un quartier, mais comme une sorte de village à l'intérieur de la ville.
Le slogan de votre campagne, c'est Douai au cœur. Si on entend cœur de ville, il faudrait mettre quasiment cœur au pluriel dans ce cas-là.
Oui, alors Douai au cœur, justement, nous avons voulu décliner cette accroche-là dans le document que nous avons conçu pour chacun des quartiers. On a repris le même thème, mais en parlant de d'Origny au cœur, en parlant de résidence Gaillan au cœur, la Clochette au cœur, Faubourg des Kerchins au cœur, etc. Au cœur, ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe que du cœur de ville. Évidemment, le cœur de ville est important, d'autant que ce n'est pas que le cœur de ville, c'est le cœur d'agglomération aussi. Donc c'est un pôle pour tout le territoire. Mais Douai au cœur, ça veut aussi dire l'amour de Douai chevillé dans le cœur, le goût de cette ville, le goût de cette ville dans la diversité de ses habitants, dans la diversité de ses quartiers, dans la diversité de ses identités et de ses histoires, c'est certainement pas le cœur contre tout le reste, non. Et je pense même, nous pensons que chaque quartier, à un moment donné, au gré d'une manifestation, d'un événement, peut demain devenir le cœur de Douai. J'ai été frappé qu'à Frey-Marais, les gens nous disent « nous, on aimerait des animations, mais pas seulement des animations de quartier ». On serait fiers à un moment donné que ce qui se passe à Frey-Marais soit d'une telle importance que ce soit ce jour-là ou ces quelques jours-là, l'endroit où il faut être à Douai, le cœur de Douai. Pourquoi pas demain développer un festival ou un événement culturel tournant qui justement serait un peu le pendant de Gaillan, pas avec la même envergure évidemment, mais quelque chose de suffisamment important pour que même les gens du centre-ville se disent « ah oui, cette année c'est au Faubourg de Béthune ». Ou cette année, c'est à Dorigny, ou cette année, c'est au Faubourg de Paris qu'il faut être. C'est là que se passe le grand événement du mois, le grand événement du moment pour toute la ville de Douai.
Radio Scarpe Sensée. Élection municipale Douai 2020. Frédéric Chéreau, tête de liste, Douai au cœur. Interview.
Alors, même si ça ne concerne pas que le cœur de ville, on va parler du commerce à Douai. C'est généralement ce qu'on entend. Douai, aujourd'hui, souffre du manque de commerce, souffre de ces vitrines désertées, de ces locaux inoccupés. Comment on fait ?
Là-dessus, je vais peut-être étonner certaines personnes. En fait, je ne suis pas si inquiet que ça aujourd'hui. Je suis convaincu que nous allons dans le bon sens. Je sais que le projet que nous mettons en place sur le centre-ville fonctionne. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est nos partenaires qui le disent. Quand l'État nous dit « on est convaincu par ce que vous faites », vous allez dans le bon sens, mieux et plus vite que d'autres communes qui font la même chose. Quand des promoteurs nous disent « nous, on a vu ce que vous mettez en place, aujourd'hui, le bruit court en France, qu'à Douai, ça bouge et il y a un vrai volontarisme politique, on veut en être. » Quand des grandes franchises commerciales nous disent « ça nous intéresse, on est prêt à venir s'installer à Douai parce qu'effectivement, on sent qu'il y a un appui de la municipalité derrière. » Et puis simplement, quand nous allons voir d'autres villes qui ont fait 5 ans, 10 ans avant nous la même chose, et qu'on voit ce qu'elles sont devenues. Quand à Mulhouse, on nous dit, nous, aujourd'hui, on n'a plus assez de commerce libre, tellement ça marche. Eh bien, nous savons que nous allons dans le bon sens. Nous savons aussi que tout ne s'est pas fait en un jour, qu'il faut encore quelques années. Mais ce n'est surtout pas en changeant de cap. Nous sommes dans la bonne direction. La conviction fondamentale que nous avons, c'est que, en fait, le commerce, c'est l'aspect visible de l'iceberg. C'est la partie émergée. Quand, globalement, un centre-ville se fragilise un petit peu, c'est sur l'aspect commercial qu'on le voit tout de suite. Les logements vides, on ne va pas le repérer immédiatement. Les commerces vides, on le voit tout de suite. Mais se dire la réponse est uniquement commerciale, c'est, comment dire, une fausse piste. Il faut travailler sur tout. Il faut d'abord travailler sur le logement et sur les habitants. S'il y a des habitants en centre-ville, alors déjà, c'est une première réponse importante, parce que ça fait de la vie dans le centre-ville. Ça fait des clients pour les commerces, ne serait-ce que pour les boulangeries, les commerces de bouche, etc., mais aussi tous les autres commerces. C'est ce que nous faisons aujourd'hui, en travaillant avec Douaisis Agglo pour mettre en place une opération d'amélioration de l'habitat en centre-ville. C'est-à-dire que nous sommes en train de construire, et c'est prêt, ça a été voté en bureau de Douaisis Agglo, là, il y a 2 semaines. Nous allons passer la partie douaisienne en conseil. L'idée, c'est de mettre en place une série d'aides financières pour que des particuliers, des propriétaires ou des investisseurs qui seraient intéressés à venir soient encouragés à rénover en profondeur les immeubles vacants ou un peu délabrés du centre-ville, de façon à faire revenir des habitants. Quand nous rachetons un bâtiment comme le King Bazaar, rue de Paris, pour justement construire demain à la place un bel immeuble de centre-ville, peut-être avec ascenseur, adapté à des personnes âgées, pourquoi pas. Tout ça, c'est des projets qui permettent de remettre de l'habitant en centre-ville. Donc, premier axe, les habitants, repeupler le centre-ville. Deuxième axe, le cadre urbain. Nous avons travaillé sur la rue de la Mairie. Dès 2020, nous allons refaire la rue de Bélin. Nous avons travaillé sur la place du Dauphin, qui était un chancre et qui aujourd'hui devient beaucoup plus attractive. Et justement, c'est important parce que c'est la porte d'entrée du cœur de ville quand on vient de la place du Barlet, notre principal parking. Nous allons continuer à aménager les espaces urbains et nous avons en cours une étude sur justement l'idée d'avoir un habillage urbain en termes d'éclairage, de signalétique, de mobilier qui fasse très qualitatif et qui nous différencie des autres villes où on se dise « Ah oui, ça c'est le centre-ville de Douai, ça ressemble à rien d'autre ». Et puis nous continuerons à développer de l'art, pourquoi pas, des fresques urbaines, des choses un peu insolites en centre-ville.
Vous évoquez l'espace justement de la place du Dauphin, le square du Dauphin, c'est très minéral. Vous avez un projet où vous annoncez de la végétalisation. Quand on y va, pour l'instant, il y a beaucoup de pierres.
Ça, c'est l'impression qu'on a au premier abord. En fait, il n'y a pas que de la pierre, il y a des tas de zones vertes au sol, il y a des arbres, mais qui sont tout neufs, tout jeunes, et on est en hiver. Là, vous allez voir déjà au printemps quand ils auront fleuri, et puis quand ils auront pris 1 ou 1,50 m ou 2 mètres d'envergure après, au printemps prochain, la place ne ressemblera plus du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. Elle sera beaucoup plus verte. Au printemps, en été, on aura l'impression d'être dans un sous-bois.
Je vous ai coupé. On parlait donc du logement, repermettre aux gens de venir habiter le centre-ville.
Je disais que le travail sur le centre-ville, et c'est ce que nous voyons dans les villes où ça marche, c'est un travail sur plusieurs paramètres. J'ai parlé du logement, remettre des habitants. J'ai parlé des espaces urbains, faire un cadre urbain beau, agréable, surprenant, où on se sente bien. Il faut travailler sur l'animation aussi. Nous avons rajouté des événements dans le centre-ville. Je pense par exemple à ce festival des arts de rue organisé par la jeunesse Edouai ou la mise en place d'un marché aux livres dans la rue de la Mairie, etc. Ça peut être des petits événements, mais ce n'est pas grave. La circulation et le stationnement. Là aussi, moi je souhaite demain que les visiteurs extérieurs ne cherchent pas à se perdre dans les lacis des rues du centre-ville, qu'on les oriente beaucoup plus franchement et directement sur la place du Barlet. Place du Barlet, d'ailleurs, qu'on va libérer dans quelques années de tous ceux qui veulent aller simplement prendre le train. Avec Douaisis Agglo, nous prévoyons un parking à la gare, du côté de la Clochette, pour ceux qui vont prendre le TGV ou le TER. Donc on libère la place du Barlet. Demain, les visiteurs extérieurs seront encouragés à aller sur cette place, où il y aura toujours moyen de se garer. Et nous allons piétonniser la rue de la Mairie et la rue de Bélin, pour faire un cœur piéton qui mette en valeur davantage les vitrines de ces rues-là et qui permette aux gens d'y flâner en toute sécurité. Et aux entrées de ces rues piétonnes, dans la rue de la Madeleine, dans le bas de la rue de la Mairie, sur la place Suzanne Lannoy, nous mettrons en place des sortes de mini-zones bleues, c'est-à-dire des places gratuites, mais qui tournent très rapidement, où on n'a pas le droit de se garer plus de 20 minutes. Et ça fera énormément tourner le stationnement. On aura toujours une place, mais c'est simplement parce qu'il s'agit d'aller déposer un chèque à sa banque, prendre une baguette, passer chez son opticien ou dans un commerce. Ceux qui veulent juste faire un saut en centre-ville seront assurés de trouver rapidement à se garer et repartir aussitôt après. Ceux qui veulent venir longtemps en centre-ville pourront aller se garer place du Barlet sans se poser de questions et passer 2-3 heures en centre-ville pour presque rien. Ou gratuitement, si, en maintenant cette gratuité que nous avons place du Barlet.
quand vous le présentez comme ça, c'est quelque chose que vous allez mettre en œuvre. De quelle façon? Dans la concertation? Ou alors déjà, tout est dans les cartons, tout est établi, il n'y a plus qu'à sortir le dossier?
Beaucoup de choses ont été réfléchies. La piétonnisation, par exemple, c'est quelque chose sur lequel nous avons déjà largement sollicité les habitants. On l'a testé rue de la Mairie, rue de Bellin. Donc ça, aujourd'hui, c'est un choix que nous avons de le faire dans ces deux rues. Après ça, on peut envisager de l'étendre. Mais ça, ce sera sur la base de la concertation. On peut réfléchir. Est-ce que demain, pourquoi pas, on piétonnise complètement la place d'Armes? Est-ce que demain, pourquoi pas, on piétonnise en tout ou partie la place Suzanne Lannoy? Est-ce que demain, pourquoi pas, et ça j'y tiens davantage, on ne piétonniserait pas complètement la rue Jean-Belgambe pour relier les deux rues piétonnes et avoir ce petit ensemble de rues piétonnes cohérent qui boucle avec la rue de Bellin et cette très jolie rue Jean-Belgambe d'ailleurs qui est dans la visibilité directe de Saint-Pierre avec ses jolies vitrines. Voilà, toutes ces réflexions-là, on peut les avoir. Ça, comme c'est du nouveau, on concertera avec les habitants.
Frédéric Chéreau, tête de liste Doué au cœur, suite de cette interview dans le cadre de la campagne des élections municipales 2020. Dans un instant, pour, avec le candidat, parler sécurité, propreté et environnement.
Radio. Scarpe Sensé.
Radio Scarpe Sensé.
Well, it's time to begin, the sun sets in, the scene set for the lovers. You play popping team and start but each gate will open another. True, that I'm all you said. It's probably hard to plan ahead. True, that I'm all you said. It's better to bask in each other. Can't keep the seasons wait for you not. Well, I try to stay from the cold and the wind making love and making a dinner. Only to find that the love that they grew in the summer, well, it froze. Oh, February, April, said, don't be fooled by that summer again. February, April, said, well, a half of the year we'll never be friends. Can't keep our seasons waiting.
Radio Scarpe Sensé, élection municipale Douai 2020. Frédéric Chéreau, tête de liste Douai au cœur. Interview.
On va parler également, parce que c'est quelque chose qui inquiète beaucoup, on entend parler de sécurité, il y a eu des chiffres qui sont tombés qui n'ont pas été en la faveur finalement du Douaisi. On a remarqué quand même que les chiffres des actes délinquants étaient à la hausse. Quel remède? Davantage de policiers, davantage de vidéosurveillance, une police municipale armée? Vous êtes sur quelle ligne?
Alors, là où, si je suis convaincu d'une chose, c'est que la sécurité est un sujet sérieux. Ne serait-ce que parce que les habitants nous en parlent beaucoup. Mais ça n'est pas un sujet sur lequel il faut être hystérique ou faire simplement de la surenchère pour des raisons électoralistes. Il faut l'aborder la tête froide en essayant de trouver des solutions intelligentes et efficaces. Ce que je vois aussi, c'est qu'en matière de sécurité, en fait, derrière un mot unique, les gens ne parlent pas forcément de la même chose. Quand on parle de sécurité à la police et de lutte contre la délinquance, la police va nous parler de lutte contre les cambriolages, de lutte contre la violence intrafamiliale, de lutte contre les vols de voitures et les agressions physiques. Des faits qui existent dans le Douaisi, mais qui, Dieu merci, ne sont pas aussi violents ou aussi nombreux que dans d'autres territoires. En revanche, quand les habitants nous parlent de sécurité, ils nous parlent parfois de choses qui n'ont pas la même importance pour la police. Quand les habitants nous disent « Ah mais il y a des gens qui squattent en bas de ma cage d'escalier ou qui squattent sur un banc et qui m'inquiètent », la police nous répond « Attendez, ça c'est pas de la délinquance ». Quand les habitants nous disent « Ah oui, mais mon voisin fait trop de bruit » ou « Il y a des gens le soir qui crient dans ma rue », la police nous répond « Mais attendez, ça c'est pas de la délinquance ». Et finalement, beaucoup de personnes mettent en face du mot « sécurité » un sentiment d'insécurité qui, objectivement, sur le plan de la définition juridique, ne relève ni de la criminalité, ni de la délinquance. Et pour autant, ce sentiment d'insécurité, il faut y répondre. Alors, autre conviction que j'ai, nous ne pouvons pas nous passer d'un travail étroit en collaboration avec la police nationale. Ne serait-ce que parce que la police nationale peut faire des choses que la police municipale ne peut pas faire. Le maintien de l'ordre, c'est la police nationale, pas la police municipale. Les contrôles d'identité, c'est la police nationale, pas la police municipale. Le travail de nuit, la BAC, c'est la police nationale, pas la police municipale. Il est très important, du coup, de conventionner avec la police nationale. Et surtout, si nous devons, nous, développer nos moyens municipaux, de dire à la police nationale, on compte sur vous pour maintenir vos moyens au même niveau sur Douai. Si demain, nous embauchons des policiers municipaux et que la police nationale, je ne dis pas qu'elle va le faire, mais j'envisage toutes les hypothèses, si la police nationale en profite pour déployer ses personnels sur d'autres communes en se disant, bah, du coup, Douai, c'est bon, la municipale s'en occupe, on n'aura rien gagné. Et on aura simplement transféré sur le contribuable douaisien un effort que faisait auparavant la police nationale. Donc conventionner avec la police nationale pour dire tout le monde participe à l'effort, ensemble, et on travaille en étroite collaboration, chacun dans son domaine de compétences. Quitte à faire de temps en temps, comme nous le faisons déjà depuis 6 ans, des patrouilles communes dans le centre-ville, par exemple. Après ça, développer notre police municipale, c'est un débat que nous avons eu avec mon groupe et nous y sommes favorables. Ne serait-ce que parce que nous savons que nous avons rendu des fondamentaux financiers de qualité. Nous avons, depuis 6 ans, toujours été prudents sur les dépenses de fonctionnement permanentes de la ville. Donc nous avons des marges de manœuvre. Évidemment que nous ne voulons pas griller sans précaution. Nous voulons utiliser avec parcimonie, mais il nous semble que ce n'est pas forcément scandaleux d'augmenter un peu les effectifs de la police municipale et d'en profiter pour redéfinir les missions, réorganiser une police municipale qui a finalement, depuis ces 6 ans, pris de nouvelles missions. Elle s'occupe davantage de voitures épaves. Elle s'occupe aujourd'hui d'un radar mobile que je lui ai demandé d'acquérir. Elle continue à iloter dans les parcs. Elle continue à s'occuper du stationnement en centre-ville. Bref, à l'occasion d'une extension de l'effectif, ce ne serait pas plus mal de réorganiser un peu, de repenser les missions, de les redistribuer, quitte à former nos agents. Ça peut être une bonne idée. Donc nous le ferons. La vidéosurveillance, c'est aussi un sujet dont j'ai fini par convenir, même si au départ, je n'étais pas un grand fan de la vidéosurveillance, je préfère la présence humaine. Je conviens que ça n'est certainement pas la panacée, mais c'est un outil parmi d'autres. Nous avons aujourd'hui une ville largement vidéosurveillée. Par rapport aux villes comparables de la région, on est probablement déjà en tête. Il y a plus de 200 caméras de vidéosurveillance et nous en avons rajouté quelques-unes ponctuellement dans le centre-ville ou à Dorigny, autour du château Treffet. Nous continuerons, en lien avec la police nationale, d'équiper tel endroit, telle rue. Je ne suis pas favorable à une surveillance globale de toute la ville, ne serait-ce que parce que ça coûte très cher. Il ne s'agit pas juste de poser des caméras, il s'agit aussi de tirer de la fibre optique, de façon à ce qu'on puisse avoir les images en temps réel au central. Quand la caméra est en centre-ville, à 300 mètres du central, c'est pas très cher. Si on met une caméra à Frais-Marais et qu'il faut ramener de la fibre optique sur 5 km, ça va être beaucoup plus cher. Et notre central aujourd'hui, il est même obsolète. Il faut qu'on change complètement les serveurs et tout l'équipement informatique de notre salle de contrôle de la police municipale. Donc tout ça a un coût. C'est pour ça que je suis prudent sur la vidéosurveillance. Je n'en fais pas la réponse ultime. Ce n'est pas la même chose que le poumon dans la pièce de Molière. Vous savez, la réponse à tout. Non, ce n'est pas la réponse à tout. C'est un outil parmi d'autres. Donc étoffer la police municipale, pourquoi pas. Développer davantage de caméras de vidéosurveillance, pourquoi pas, en tant que de besoin. Travailler avec la police nationale, évidemment, c'est fondamental. Vous parliez de l'armement de la police municipale.
Oui, parce qu'actuellement, elle n'est pas armée, cette police. Vous y êtes favorable ou plutôt opposé? Ou carrément opposé?
Elle est armée, cette police municipale. Elle est armée de ce qu'on appelle un tonfa. C'est le bâton. Voilà. Je pense que c'est largement suffisant. Honnêtement, la police municipale a-t-elle besoin d'être armée quand elle fait du stationnement dans le centre-ville? A-t-elle besoin d'être armée quand elle verbalise des crottes de chiens ou des jets de mégots? A-t-elle besoin d'être armée quand elle ilote dans un parc? A-t-elle besoin d'être armée même quand simplement elle fait du contact avec le citoyen en allant se balader dans un quartier périphérique, en rencontrant les cafetiers, les riverains, les commerçants, pour voilà, recueillir simplement des informations? Je ne pense pas. Quand vous regardez simplement au niveau national, quelles sont les règles des policiers nationaux sur l'usage des armes? Quelle est la doctrine qui s'impose? La doctrine, c'est qu'on ne sort jamais son arme, sauf si on est dans une situation de danger évident et immédiat, où l'usage de l'arme est légitime à très court terme. En gros, vous êtes face à un agresseur armé et vous devez vous défendre. Mais on ne sort pas son arme pour se donner une contenance. On ne sort pas son arme pour menacer quelqu'un. On ne sort pas son arme pour convaincre une personne de payer un PV. Ça, c'est totalement absurde. Donc non, je ne suis pas pour l'armement de la police municipale. Elle n'en a pas besoin. Certains me disent « Ah oui, mais demain, monsieur le maire, s'il y a du terrorisme. » Mon Dieu, s'il y a du terrorisme, un terroriste tirera en premier sur la personne porteuse d'une arme. Donc mettre une arme à nos policiers municipaux serait les désigner comme cible et les mettre encore davantage en danger. Et non, ce n'est pas deux policiers municipaux qui arrêteront un terroriste. Si demain, et je ne le souhaite pas, je touche du bois, mon Dieu, mais nous devions avoir une agression terroriste dans cette ville, la consigne donnée aux policiers municipaux ne serait certainement pas de se porter au premier rang. Ce serait de se mettre à l'abri et d'avertir la police nationale, comme n'importe quel citoyen le ferait. Au-delà de ça, l'armement de la police municipale, ça a un coût. Et c'est un coût aussi en temps. Ça veut dire que vous devez extraire des policiers municipaux du terrain à intervalles réguliers pour les envoyer se former. Moi, je préfère qu'ils et elles soient dans nos rues, à faire leur travail au quotidien, plutôt que d'aller passer des heures à faire du tir au carton, simplement pour s'entraîner à un geste que ces personnes n'auront jamais à faire. Nos policiers municipaux ont leur tonfa. Nos policiers municipaux, le cas échéant, ont aussi des gilets pare-balles, quand par exemple, ils participent à la sécurisation du tribunal pour les grands procès. Et je pense que c'est largement suffisant.
Radio Scarpe Sensée. Élection municipale Douai 2020. Frédéric Chérault, tête de liste, Douai au cœur. Interview.
Vous l'avez évoqué dans leur mission également, c'est la lutte contre les incivilités, ce qui peut donner de temps en temps l'impression d'une ville qui n'est pas propre. Mais si elle n'est pas propre, c'est que le déchet n'est pas arrivé tout seul. Comment on fait? On met davantage encore de poubelles, on met davantage de surveillance, on éduque de façon... Voilà, comment on fait pour que cette ville, elle soit belle, agréable et propre?
Sur ces sujets-là, sur tout ce qui relève de l'incivilité, j'ai coutume de dire que c'est notre responsabilité à tous. Je suis souvent interrogé là-dessus dans les réunions publiques et ma réponse est souvent de dire, ben voilà, quand c'est un problème technique ou matériel, la ville sait faire. Un arbre qui penche, on sait gérer. Un lampadaire qui ne marche plus, on sait gérer. Un caniveau qui déborde, il n'y a pas de souci. En revanche, quelqu'un qui ne souhaite pas respecter les règles, volontairement, sciemment, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que je peux mettre un policier derrière chaque citoyen? Donc que la ville soit propre, c'est notre responsabilité à tous. Donc oui, la réponse pédagogique, elle est nécessaire. Nous l'avons fait depuis 6 ans, nous avons organisé les opérations « Mon quartier au sens propre », de manière tournante dans chaque quartier. Nous avons mis en place des opérations un peu originales, comme ces pochoirs, crottoirs, pas trottoirs, ou ce mégot géant ou cette crotte de chien géante qu'on a affichée à l'occasion devant la gare, par exemple, pour sensibiliser les habitants. On continuera avec ce genre d'opérations. Certaines villes s'amusent à mettre du pochoir fluorescent autour des crottes de chiens pour attirer un peu l'attention des riverains et jeter l'opprobre sur ceux qui font ce genre de choses. Il y a des personnes qui me disent « Ah, monsieur le maire, contre les crottes de chiens, il faudrait mettre des distributeurs de sachets ». C'est pas la panacée. Quand les gens n'ont pas envie de ramasser, vous pouvez leur mettre tous les distributeurs de sachets que vous voulez, ils ne ramasseront pas. Est-ce que vous savez que nos policiers municipaux interrogent systématiquement les propriétaires de chiens pour vérifier s'ils ont de quoi ramasser dans la poche? Parce que j'ai mis en place un arrêté qui dit qu'on peut être verbalisé dès le moment qu'on est dehors avec son chien sans avoir sur soi de quoi ramasser. Pratiquement tous les gens que nous interrogeons, tous ont sur eux quelque chose pour ramasser. Un bout de carton, un sachet, etc. Et pourtant tous ne ramassent pas. Donc ce n'est pas le sujet d'avoir ou pas un sac. Tout le monde a un sac dans sa poche. Tous les propriétaires de chiens en ont un. Mais certains n'ont pas envie de faire le geste. Ce n'est pas très agréable de ramasser une crotte de chien, même à travers un sachet plastique, et d'attendre la prochaine poubelle pour la mettre. On est parfois un peu feignant. J'ai donné des consignes aussi très strictes pour verbaliser systématiquement tous ceux qu'on prend à laisser crotter leur chien par terre ou jeter un mégot sur le sol. Mais voilà, vous avez aussi des gens qui sont malins, qui surveillent, évidemment. Si un policier municipal est dans les parages, forcément, on va trouver le cendrier, on va trouver la poubelle. Il n'y a pas forcément un policier municipal en permanence dans chaque rue à toutes les heures. C'est pour ça que la bonne volonté des habitants est importante. Nous continuerons les opérations de sensibilisation, nous continuerons à verbaliser. Je réfléchis même à quelque chose sur lequel j'interrogeais le service administratif et juridique. Est-ce que nous pouvons assermenter tous les agents qui sont sur la voirie ? Pas forcément pour mettre le PV, mais pour que leur témoignage ait suffisamment de force pour pouvoir mettre ensuite, a posteriori, un PV. Parce que nos agents de balayage, par exemple, sont capables de voir « Tiens, telle personne a laissé crotter son chien ». On va le suivre, hop, on voit que la personne habite à tel endroit, on donne une description, on donne l'adresse, et ensuite, parce que cet agent est assermenté et que son témoignage est valable, on peut mettre un PV. Au fond, ça démultiplierait le nombre d'yeux capables de repérer, de voir ce qui se passe dans la ville. Pas s'appuyer uniquement sur les agents de police municipale, mais sur l'ensemble des agents municipaux qui sont dans les rues. Ça pourrait être une solution.
On va parler de l'arbre dans la ville. Vous annoncez en 6 ans 3000 arbres supplémentaires végétalisés cette ville. C'est pas uniquement pour faire beau, ça a un sens également écologique.
Je pense que nous ne nous rendons pas compte aujourd'hui du fait que le monde où vivront nos enfants, nos petits-enfants, mais même nous dans 10 ans, va être très différent du monde d'aujourd'hui. Nous avons été stupéfaits de voir les incendies qui ont ravagé l'Australie l'été dernier. Ça recommencera, de plus en plus souvent. Et nous aurons probablement la même chose en France d'ici 20 ans. Il va faire, avant la fin du siècle, mais même avant le milieu du siècle, des étés réguliers à plus de 30 degrés à Douai, avec des pics à 35, des pics à 40, parfois dès juin. Comment on se prépare à ça ? Nous devons aujourd'hui préparer Douai à vivre dans ce monde-là. Et les arbres, on sait que c'est ce qui permet de créer des îlots de fraîcheur. Moi, je souhaite que nous fassions, comme d'autres villes l'ont fait, comme Paris est en train de le faire, que nous transformions nos écoles en oasis de fraîcheur. Donc moins de macadam dans les cours d'école, pourquoi pas du sable aggloméré, du gravier. On a du gravier dans une de nos écoles, et c'est une maternelle, et ça se passe très bien. Pendant des décennies, hein, au XXe siècle, au XIXe siècle, les écoles n'avaient pas de macadam dans les cours et les enfants s'en portaient pas plus mal. Mais davantage de végétation, davantage d'arbres dans les cours d'école. C'est un aspect pédagogique parce que on voit la nature évoluer au fil des saisons. On a un rapport différent avec son environnement. Et du coup, aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, nos écoles deviennent des oasis de fraîcheur où il fait bon, même en été. Puis c'est pas seulement dans nos cours d'école. À l'échelle de la ville, on peut planter davantage. Je suis frappé de voir que dans des petites rues étroite, où les Français ne mettraient aucun arbre, les Néerlandais arrivent à mettre ici un arbre en pot, ici une plante grimpante, ici un petit arbuste, et ça se passe très bien. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose à Douai ? 3000 arbres, on peut les mettre. Évidemment, on peut mettre des grands sujets dans les parcs, on peut continuer à planter des hêtres, des chênes, etc. On peut aussi mettre des formes beaucoup plus petites partout dans la ville pour que nous soyons tout le temps, partout, au contact de la nature.
Ces îlots de fraîcheur dans les écoles, ce serait également ouvert en dehors des heures d'école, forcément, pour que la population, les soirs d'été, puisse en profiter.
Ça, c'est une très belle réflexion, effectivement, que nous avons au sein de mon groupe, de se dire, au fond, un équipement public, quel qu'il soit, doit être utilisé le plus souvent et le plus largement possible. Et c'est pas si scandaleux, à la limite, qu'une cour d'école, le samedi, le dimanche, on puisse l'ouvrir, sans ouvrir l'école elle-même, mais en journée, pas forcément la nuit, que les gens puissent y rentrer, en profiter, que les enfants puissent aller dans l'aire de jeu, s'il y a un banc ou deux, que les parents puissent s'y asseoir. Effectivement, surtout l'été, si ce sont les principaux îlots de fraîcheur dans la ville, eh bien oui, ouvrons-les. On fera la même chose d'ailleurs, cet esprit d'ouverture des équipements publics, on veut le faire aussi par exemple dans les équipements sportifs. En ayant des équipements sportifs beaucoup plus ouverts à la pratique libre, plus que uniquement au club.
Il faudra à ce moment-là également gérer avec les licenciés des clubs, les responsables associatifs qui, de temps en temps, font de l'équipement un peu leur précaré.
Alors que ces responsables associatifs n'oublient pas que l'équipement, c'est souvent la principale subvention, entre guillemets, que leur met la ville à disposition. Certains responsables associatifs me disent « Ah bah nous, on reçoit que, je sais pas, 5 000 ou 10 000 euros ». Déjà, c'est une somme. Puis en plus, ces responsables oublient parfois que la mise à disposition d'un magnifique équipement, ça représente beaucoup plus que cette somme-là, et c'est gratuit. Donc, non, les responsables associatifs, j'espère, comprendront. Puis par ailleurs, on ne va pas forcément prendre des créneaux aux associations. Les associations ont souvent besoin des équipements le soir, entre 17h et 20h, le samedi après-midi, le mercredi après-midi. Mais si on dit, par exemple, on ouvre les salles de sport le dimanche matin. Le dimanche matin, c'est très bien pour des familles qui ont envie d'aller jouer au ping-pong tranquillement quelques heures, ou au badminton, ou découvrir telle activité, sans forcément rentrer dans un club, mais parce que, pour le plaisir, on se détend, c'est dimanche. Ça ne dérangera pas les associations, ça fera plaisir aux familles, ça permettra à des pratiquants qui n'ont pas l'habitude de découvrir certains sports, ça peut même être bon pour les associations. Imaginez une famille qui va un dimanche matin à la Porte d'Arras jouer au ping-pong pendant 2 heures dans un esprit convivial. Qui vous dit que la maman, le papa, un des enfants ne va pas se dire « j'aime bien ce sport-là, au fond, j'ai envie d'adhérer ». Et si le club est là ce jour-là, parce qu'on sollicitera nos clubs, pourquoi ne pas leur demander de mettre leurs bénévoles à disposition pour simplement surveiller, animer ces moments d'ouverture libre ? Eh bien, le club va probablement, dans ces journées-là, récupérer des adhérents supplémentaires.
Frédéric Chéreau, tête de liste Douai au cœur dans le cadre de la campagne des élections municipales 2020, à venir dans la suite de notre entretien. La culture, l'alimentation, la rénovation du patrimoine bâti et la place de la ville dans la collectivité Douaisy Agglo.
Radio.
Radio Scarpe Sensé.
Aubergine en janvier, clémentine en juillet et Noël au balcon. Des palmiers, des voyages, la terre est mon village, des voitures, des avions. Merci, merci, mais demain j'en voudrais un peu moins. Des smartphones à Noël, Saint-Valentin des dentelles, Halloween des bonbons. Des shampoings, des chaussures, une vie pleine d'aventures et pleine de promotions. Merci, merci, mais demain j'en voudrais un peu moins. Des crèmes pour le jour, des crèmes pour la nuit, des allées, des retours et la mélancolie. Merci, 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 merci. Aujourd'hui c'est le 3, c'est les soldes, soldats formés des bataillons. Au signal on y va, et puis chacun pour soi, à l'assaut des rayons. Merci, merci, mais demain j'en voudrais un peu moins. Des crèmes pour l'amour, des crèmes pour l'envie, des tankers, des poids lourds et la mélancolie. Merci, 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 merci. Des infos, des rumeurs, des scandales, de la peur et des révélations. Des amis, des visages, des pouces ou des images, des photos de chatons. Merci, merci, mais demain j'en voudrais un peu.
Radio Scarpe Sensée, élection municipale Douai 2020. Frédéric Chéreau, tête de liste Douai au cœur. Interview.
Autre projet que vous annoncez, c'est une médiathèque centrale. Alors, c'est un nouvel équipement que vous projetez en complémentarité de la bibliothèque déjà existante, bibliothèque du centre, et des bibliothèques de quartier.
Oui, c'est un de nos projets forts. D'abord parce que je ne souhaite pas multiplier les équipements nouveaux. Notre logique sur les investissements, c'est plutôt d'entretenir, de mieux isoler, de rénover. Et si nous construisons en neuf, ce sera la plupart du temps pour remplacer un équipement ancien et pas se rajouter. Mais sur la bibliothèque, il nous semble qu'il y a un vrai effort à faire. À la suite de la construction de 3 nouvelles bibliothèques de quartier, nous voulons maintenant aborder la question de la médiathèque centrale. Au fond, notre médiathèque, en termes d'équipement, d'organisation interne, elle est encore très XXe siècle. On peut aujourd'hui rêver à des médiathèques très différentes, qui soient des lieux de vie, des lieux de rencontre où il y ait peut-être, pourquoi pas, c'est pas scandaleux, un endroit pour boire un café, grignoter quelque chose, ou simplement une salle un peu libre où on vient se poser dans un canapé, sur un coussin, pour discuter, pour travailler. Des villes comme Dunkerque, par exemple, ont produit, en concertation avec les habitants, des équipements très intéressants de ce type. Alors évidemment, nous regarderons ça en fonction des moyens que nous avons. Il faudra faire des arbitrages dans le plan d'investissement, il faudra regarder les subventions possibles. Mais si nous refaisons la bibliothèque centrale, la médiathèque centrale, soit nous la refaisons dans ses locaux actuels, pourquoi pas, soit, et c'est peut-être la solution qui a ma préférence, nous la déplaçons dans le cœur de ville, dans un bâtiment qui serait directement sur la rue de Bélin, pour en faire un pôle d'attraction en cœur de ville, un lieu de vie qui génère du flux et qui fasse venir du monde dans le cœur de ville. Il faudra regarder si on trouve le bâtiment adapté, avec suffisamment de volume, suffisamment de mètres carrés, et si nous avons les subventions pour le faire. Mais c'est un projet qui me tient fortement à cœur, et quoi qu'il arrive, que ce soit en centre-ville ou à son emplacement actuel, moi je souhaite vraiment que d'ici 6 ans, nous ayons une médiathèque du 21e siècle à Douai.
Après les nourritures spirituelles, les nourritures de la table également, vous annoncez votre volonté d'une nouvelle cuisine centrale hein, pour les cantines. Pourquoi ?
Alors ça, c'est vraiment pas un luxe. La cuisine centrale, les Douaisiens ne la connaissent pas forcément. Elle est rue d'Albergotti, dans des locaux pas forcément très bien adaptés, où les réserves, le stockage est en sous-sol, avec une hauteur sous plafond qui est assez faible. C'est contraignant, c'est pas simple pour nos équipes, alors même qu'à la cuisine centrale, le travail est très intense. À la cuisine centrale, vous ne pouvez pas décider que finalement, vous allez mettre une heure de plus à faire le travail. Il faut qu'à 10h30, tout soit prêt pour être ensuite mis en boîte, emporté dans les écoles et servi aux enfants à partir d'11h45 dans certaines écoles. Nous avons besoin d'une nouvelle cuisine centrale et c'est peut-être un des regrets que j'ai de ne pas avoir réussi à le faire dans ce mandat-ci, malgré un plan d'investissement très important. Nous avons, je le rappelle, investi plus de 100 millions d'euros en 6 ans. Donc oui, cette nouvelle cuisine centrale sera une priorité. Il faut la refaire beaucoup plus cohérente, beaucoup plus ergonomique, beaucoup plus adaptée aux exigences du travail de nos agents. Et pourquoi pas la mettre dans un quartier en politique de la ville, ce qui nous permettrait peut-être de développer à côté du maraîchage en insertion, parce que c'est important aussi de ne pas regarder simplement les bâtiments de la cuisine centrale, mais de se dire qu'est-ce qu'on cuisine. Nous pouvons très bien demain avoir davantage de produits locaux venant de producteurs du Douaisi, mais aussi de ce que nous pourrions nous produire en propre. Je pense notamment à certaines terres qu'on a libérées du côté de Dorigny, à côté des jardins ouvriers. Là, demain, la ville peut faire du maraîchage bio en direct, en régie municipale, pour alimenter la cuisine centrale. Alors, il nous manquera entre les deux, entre, je dirais, la carotte de pleine terre et la cuisine centrale, un équipement qu'on appelle une légumerie. Une légumerie, c'est simplement un lieu où on transforme des carottes entières terreuses en rondelles de carottes bien propres et bien emballées. Ça, c'est un sujet dont j'ai commencé à parler avec Douaisi Agglo. Alors, aujourd'hui, rien n'est fait, mais il me semble que nous pourrons réfléchir, avancer ensemble sur cette idée d'avoir demain dans le Douaisi une légumerie communautaire qui recevrait des légumes de tous les petits producteurs, du maraîchage bio de la ville de Douai, etc., qui les transformerait, qui couperait, éplucherait, nettoierait les légumes, les emballerait de façon à redistribuer ensuite vers toutes les cuisines centrales du territoire. La cuisine centrale de Douai, mais pourquoi pas celle de l'hôpital, c'est-à-dire des autres communes qui cuisinent encore au niveau local. C'est un équipement, à mon sens, qui aurait du sens. Et là-dessus, j'ai le sentiment que ça suscite l'intérêt de mes collègues au niveau de Douaisi Agglo. Donc je pense que nous pourrons en reparler.
Radio Scarpe Sensé. Élection municipale Douai 2020. Frédéric Chéreau, tête de liste, Douai au cœur. Interview.
On va parler un petit peu de ce qu'on peut présenter comme le troisième tour de l'élection. La représentation de la ville de Douai à Douaisi Agglo. Combien de membres siégeront pour la ville de Douai ?
19.
Sur un effectif de
79.
Donc ça pèse quand même dans... parce que c'est nouvellement redistribué. Vous avez l'impression que la ville a manqué un peu de présence au sein de Douaisi Agglo sur les 6 ans passés ?
Nous avons passé un mandat avec 60 membres du conseil communautaire. Et oui, du coup, effectivement, c'était difficile de représenter toute la diversité, la variété des quartiers, de la population de Douai. La population de Douai, c'est le quart de la population de l'agglomération. Ce n'est pas juste une commune parmi d'autres. C'est une commune avec des tas de facettes, des tas de réalités urbaines différentes. Je pense qu'aujourd'hui, Douai sera représenté à sa juste valeur, à sa juste place. Et Dire ça, ça n'est pas parler contre les autres communes. Je suis vraiment convaincu qu'il faut un équilibre entre une vision collective, communautaire, où nous abordons le Douaisy comme un ensemble urbain cohérent qui dépasse les frontières de communes, avec un centre d'agglomération et toute une structure urbaine. Ça, c'est la première vision. Et puis la deuxième vision, c'est en revanche le respect de la singularité de chaque commune, qu'elle soit très peuplée ou moins peuplée. Donc cet équilibre entre une vision globale communautaire et une vision municipale communale, nous avons commencé à le trouver dans ce mandat-ci, et je pense que nous pouvons continuer sur ce chemin. Travailler ensemble et respecter l'identité et la singularité de chaque commune.
Vous souhaiteriez être en charge d'une présidence ou d'une vice-présidence en cas de réussite ?
Le sujet de la présidence, ce n'est pas un sujet en soi. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de m'assurer que Douaisy Agglo travaille en collaboration, en confiance avec l'ensemble des communes, et notamment évidemment avec la ville de Douai. Que les projets, les priorités de la ville de Douai, les attentes de la ville de Douai sont entendues, sont comprises au niveau de Douaisy Agglo. Ce qui m'importe, c'est de savoir que tant d'élu à élu que de service à service, nous nous parlons en franchise, en confiance, sans barrière et sans arrière-pensée. Si j'ai ce sentiment-là, que le courant passe bien à tous les étages, alors après ça, évidemment, on peut de temps en temps faire des arbitrages qui ne satisfont pas tout le monde, mais que l'écoute est là et que le travail en confiance est là, alors ça n'est plus du tout un sujet de place ou un sujet de présidence pour tel ou tel. L'essentiel est acquis dès lors qu'on travaille dans l'écoute et dans la confiance mutuelle.
Vous avez annoncé il y a très peu de temps les projets pour le quartier Co. Vous avez également mis au point la situation de l'ancien magasin Leroy Merlin. Ça arrive tardivement. C'est quoi ? C'est le calendrier qui est malheureux parce que ça se réalise que maintenant et ce sera dans l'avenir ?
Je ne sais pas si le calendrier est malheureux. Enfin, le mandat, il dure 6 ans. On le sait dès le départ. Et donc, nous avons prévu notre action en 2014 sur une durée de 6 ans. Donc, il est normal que certaines choses, finalement, aboutissent à la fin du délai du mandat, puisque ça a été prévu comme ça dès le départ. Et ce n'est pas que les choses tombent du ciel tout d'un coup à la fin, c'est qu'en fait, c'est le résultat du travail de plusieurs années. C'est l'aboutissement de les efforts que nous avons fournis. Après ça, sur le quartier Co, en réalité, c'est quelque chose qui était déjà en germe. Parce que depuis 6 ans, nous avons dit que c'était une priorité, que nous voulions trouver une solution de sortie. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai obtenu auprès du ministère de la Culture l'inscription au monument historique du quartier Co. Parce qu'il y a un an et demi, nous avons fait un tour de piste avec Maison et Cité, qui avait dans ses bagages, à ses côtés, le promoteur Histoire et Patrimoine. Parce que tout ça a eu lieu depuis 6 ans, parce que aussi nous avons mis en place un projet de centre-ville en affirmant clairement une stratégie, en affirmant clairement notre stratégie sur le quartier Co. Parce que tout ça est en place, alors aujourd'hui, oui, ça se débloque. Et ce promoteur, ce partenaire Histoire et Patrimoine nous dit « Nous y voyons suffisamment clair, nous avons suffisamment confiance pour sortir du bois et affirmer que le quartier Co nous intéresse. » Et nous allons d'ailleurs, la ville de Douai en parallèle, lance en ce moment même une étude générale plus large que le quartier Co, qui va du boulevard Jeanne d'Arc à la rue des Kerchins, sur tout ce grand périmètre, ces 2 vastes îlots qui forment un tout cohérent, où il y a des choses à interroger sur ce que possède l'armée, sur ce que possède le département, et donc ça va au-delà du quartier Co. Voilà, et tout ça, une stratégie urbaine cohérente, l'inscription des bâtiments, la priorité affichée à ce projet-là, fait que la solution arrive aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon timing, voilà.
6 ans, ce sera suffisant pour réaliser derrière, si c'est OK.
Si l'intérêt d'Histoire et Patrimoine se confirme, et moi j'ai le sentiment d'avoir en face de moi des partenaires fiables, solides, qui savent ce qu'ils font, qui savent où ils vont, qui veulent vraiment faire, oui, ce sera fait dans les 6 années qui viennent.
Parce qu'il y a des choses qui tardent quand même, c'est pas forcément de votre fait, mais l'ancien hôpital, on a l'impression que ça n'avance plus.
Vous savez, ces projets-là, sur des grands bâtiments historiques, c'est toujours compliqué. C'est beaucoup plus simple de construire un bâtiment de petite taille à neuf sur un foncier libre. Quand il s'agit de réhabiliter, c'est toujours une aventure, c'est toujours un petit peu à risque. Je crois que l'hôpital général, ça va se faire. Plusieurs étapes ont été franchies, le bâtiment a été complètement nettoyé à l'intérieur et nous avons toujours, à Douaisy Agglo et à la ville, des contacts avec l'investisseur qui nous rassurent. Au quartier Co, j'ai confiance aussi. Je suis allé voir à Arras ce qu'a fait Histoire et Patrimoine sur des bâtiments presque jumeaux de ceux de Douai. Donc nous n'avons jamais eu en face de nous un partenaire à la fois aussi déterminé et aussi compétent sur le sujet. Alors oui, évidemment, tant que ça n'est pas fini, on n'est jamais sûr à 100%. Mais je pense que sur ces deux projets-là, ça va vraiment dans le bon sens.
Et la dernière question, votre sentiment aujourd'hui à quelques semaines maintenant de l'élection?
Mon sentiment, c'est que je suis raisonnablement confiant. Je pense que le bilan est bon. Je pense que le projet est cohérent et a été largement travaillé. Je pense surtout être entouré d'une équipe de femmes et d'hommes de grande qualité, solides, sérieux, qui sont prêts à travailler ensemble. Après ça, le verdict de l'élection sera ce qu'il est. Je l'attends avec calme. Ce sont les électeurs qui décident en fin de compte, les électeurs et les électrices. Ce que je sais aussi, c'est que le maire qui sera élu demain devra avoir à cœur de rassembler tout le monde au sein du conseil municipal et au niveau de la ville. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux surtout être dans une attitude de construction, de proposition. Dès maintenant, il est important d'avoir le sens des responsabilités, de dire le vrai, de ne pas surpromettre et de ne pas créer des tensions avec les uns ou les autres qui rendraient difficile demain le fonctionnement du conseil municipal.
Cette volonté de travailler ensemble, elle peut se décider entre les deux tours de l'élection?
Rien n'est fait, rien n'est écrit sur ce qui se jouera entre les deux tours. Aujourd'hui, je ne suis pas dans une logique de fusion préécrite avec quelques listes que ce soit. J'ai une équipe cohérente et solide qui peut tout à fait fonctionner en autonomie. En fonction des résultats du premier tour, j'examinerai s'il y a lieu ou pas de proposer un rapprochement avec telle ou telle liste. Et je ne sais pas aujourd'hui quel sera ce résultat. Donc je ne me prononce pas à ce stade.
C'était Frédéric Chéreau, tête de liste Douai au cœur, dans le cadre de la campagne des élections municipales 2020. Interview Hervé Dujardin pour Radio Scarpe 107.